vous raconter l'histoire d'une décision, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme seul dans son bureau. Il a pris des conseils, des avis, écouté les proches et les moins proches, interrogé les experts, mais maintenant, il est seul, debout, son téléphone en main. Il regarde par la fenêtre. Il lui reste encore un peu de temps. Oh, pas beaucoup, quelques minutes tout au plus, quelques secondes peut-être. Mais au bout de ces petites minutes, il faudra y aller, il faudra trancher, il faudra décider. Il est là pour ça, au fond, pour ce courage-là, il le sait. Mais ce n'est pas facile pour autant. Décision, choix, ces mots semblent quasiment synonymes dans la langue française. Pourtant, ils ne le sont pas. Une vraie décision n'est pas exactement un choix. Choisir, c'est choisir parce qu'on sait. Entre A et B, si l'analyse logique nous conduit clairement à B, alors il n'y a rien à décider. On choisit B parce que c'est rationnel, fondé, explicable. Mais dans bien des cas, on ne sait pas trop. Et pourtant, il faut trancher. C'est alors qu'il faut trouver le courage de décider. Choisir, c'est savoir avant d'agir. Décider, c'est peut-être agir avant de savoir. Attention, cela ne veut pas dire qu'on ne sait rien, mais cela signifie que ce que l'on sait ne suffit pas. C'est donc le degré d'incertitude qui distingue la décision du choix. Décider, c'est affronter l'incertitude, c'est compenser la limite de son savoir par la puissance de sa volonté, de son intuition peut-être, de sa liberté probablement. Descartes, qui était finalement assez peu cartésien, définissait ainsi la décision. Décider, c'est compenser la limite de son entendement par la puissance de sa volonté. Toute véritable décision comporte donc un risque d'échec. Impossible, sans acceptation, sans consentement à ce risque d'échec, de trouver la force de décider. Il regarde son téléphone. Il s'approche de la fenêtre. Ils sont tous là, en contrebas. Il compose le numéro et leur annonce sa décision. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce parce qu'elle est bonne qu'il l'a prise? Ou est-ce parce qu'il l'a prise qu'elle est bonne? Est-elle bonne parce qu'elle va produire de bons résultats? Ou parce qu'elle est morale? Parce qu'elle porte de bonnes valeurs? Est-elle bonne parce qu'elle lui ressemble? Ou parce que de toute façon, qu'elle lui ressemble ou non, il va l'assumer jusqu'au bout? Pour en parler ce matin, de choix et de décision, du courage qu'elle demande et de la solitude qu'elle implique, j'ai la joie de recevoir un ancien président de la République qui est aussi un jeune marié, François Hollande, auteur notamment chez Stock des Leçons du pouvoir. François Hollande qui nous a rejoint sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à réfléchir à cette belle et difficile question: qu'est-ce qu'une bonne décision?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de venir parler avec nous de philosophie. Alors je vais vous poser la question directement, un peu frontalement. Est-ce qu'une bonne décision, c'est d'abord une décision qu'on assume?
Oui, la décision, dès qu'elle est prise, elle doit être revendiquée, bonne ou mauvaise. Le pire, c'est de changer de décision. C'est de donner l'impression, non pas de l'hésitation avant de la prendre, mais du doute une fois qu'elle est prise. La décision, pour qu'elle soit acceptée, doit être irréversible.
Vous savez, Descartes, dans le discours de la méthode, raconte un truc étrange. Il dit que quand on a un homme qui est perdu dans une forêt, s'il veut s'en sortir, eh bien, la question n'est pas qu'il regarde la mousse des arbres, ou qu'il se repère au ciel, ou qu'il applique la méthode du petit poussé. C'est juste qu'ils doivent choisir une direction, n'importe laquelle, et s'y tenir. Et donc ce que Descartes dit, c'est que la décision, la question c'est pas qu'elle soit bonne au début, c'est la fermeté de résolution par laquelle on la tient après coup.
Oui, je pense que Descartes avait raison. Ce qui compte, c'est pas le temps que l'on prend pour prendre la décision. C'est légitime de réfléchir, de s'interroger, de regarder toutes les options. C'est ensuite le cap qui va être défini par la décision. C'est-à-dire que une décision, pour qu'elle soit bonne, elle doit s'inscrire dans la durée. Ce qui va faire qu'elle sera retenue, c'est qu'elle va compter pour longtemps, et pas simplement dans l'instantané. Comme président, j'ai pu prendre beaucoup de décisions. Certaines tenaient à des nominations, d'autres à des arbitrages que je pouvais faire. Mais les décisions les plus lourdes, ce sont celles qui vont s'inscrire dans le temps long et vont modifier le cours de la vie de beaucoup de nos concitoyens ou du monde même.
Dans votre livre Les Leçons du pouvoir, eh bien, il y a plein de chapitres. Et justement, il y a un chapitre qui porte pour titre Décider et un autre qui est très loin dans le livre, qui est différent, qui porte pour titre Choisir. Alors, quelle est la différence?
Vous l'avez donné,
vous êtes
cette différence. Oui, je suis d'accord. Le choix, c'est après beaucoup d'options et après une longue réflexion et qui, d'une certaine façon, vous conduit mécaniquement à aller dans cette direction. La décision, c'est quelquefois aller contre vos propres choix. C'est-à-dire, vous n'aviez pas pensé rentrer dans une situation extrêmement périlleuse et vous prenez une décision. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai eu à affronter une crise terroriste, je m'étais pas posé la question comme candidat, qu'est-ce que j'aurais à faire si des attentats se produisaient. J'aurais sans doute à un moment ou un autre à intervenir, mais je ne pouvais pas anticiper ce que j'aurais à faire. Donc la décision, c'est quand vous êtes face à une épreuve et que vous devez dans un temps très court, non pas faire un choix, mais prendre une résolution qui, elle, va durer longtemps.
Par exemple, intervenir au Bataclan.
Par exemple, intervenir au Bataclan. Il peut y avoir une décision qui va être prise dans un temps très court et qui va avoir une résolution également très courte. Je vais prendre l'exemple que vous donnez. C'est-à-dire lorsque je fais donner l'assaut, notamment pour libérer des otages, je sais que ça va prendre peu de temps pour que nous arrivions à la solution et qu'ensuite, une fois que les otages, heureusement, sont libérés, c'est terminé. Donc la décision, elle engage aussi. Ça, c'est un élément très important. Le choix, d'une certaine façon, il est presque impersonnel.
Oui, c'est
la
ça.
Décision, elle est rapportée à une femme, à un homme. Et si elle n'a pas eu le résultat escompté, eh bien, c'est le principe de la responsabilité. Qui dit décision, dit jugement et responsabilité.
Quand on prend cet exemple, donner l'assaut au Bataclan, est-ce que vous avez ressenti, au moment de prendre cette décision, une forte solitude ?
Oui, pour ce type de décision, où il faut agir dans un temps presque immédiat, seul, en l'occurrence, le président de la République peut prendre cette orientation. Donc oui, il y a de la solitude. Et la solitude, elle n'est pas l'isolement. Je m'explique. Vous devez recueillir des avis, vous devez vous informer sur une réalité, et vous devez trancher. Mais c'est pas une solitude. Vous avez du monde autour de vous. Mais au moment où vous prenez la décision, ça c'est seulement le président de la République qui doit prendre cette responsabilité.
Si on essaye de prendre du recul sur votre exercice du pouvoir présidentiel de 2012 à 2017, et on comprend votre distinction, donc il y a des choix, donc on réfléchit, ça s'impose, c'est logique, c'est argumentable, et puis il y a des décisions, on a compris la différence. Si vous deviez répartir en termes de pourcentage pendant 5 ans, c'est quoi ? C'est 40% de choix, 60% de décisions, c'est 80% ou 90% de choix, 10% de décisions, vous répartiriez comment votre métier ?
Il y a ce que j'appelle les grandes décisions et les autres. Qu'est-ce que c'est qu'une grande décision ? C'est comme je l'ai évoqué, c'est celle qui va changer durablement le cours de la vie de beaucoup de nos concitoyens ou même du monde. Je vais prendre un exemple. Je décide de faire intervenir la France au Mali, cette décision... Je la sens monter en moi, puisque je suis appelé par des chefs d'État de l'Ouest de l'Afrique. Et à un moment, je dois engager moi-même l'opération. Et ça, c'est une décision qui va durer, peut-être même trop longtemps. Donc, si je peux résumer un quinquennat, je dirais qu'il y a 5 à 6 grandes décisions qui sont prises et qui vont bouleverser, finalement... la vie, pas simplement du président, parce que ça c'est tout à fait accessoire, mais la vie du monde ou de la France.
Quelle est la décision dont vous êtes le plus fier ?
La décision dont je suis le plus fier, c'est sans doute, que je l'avais dit d'ailleurs, quand les djihadistes fonçaient sur Bamako, de les avoir arrêtés. La décision que je regrette de ne pas avoir prise... toujours dans ce même domaine, c'est quand Barack Obama renonce à frapper Bachar el-Assad alors qu'il a utilisé des armes chimiques et que la France est seule et qu'elle ne peut pas intervenir. Là, je me dis le cours du monde est en train de changer. Et il a changé.
C'est vrai. Je lis votre livre, justement, un chapitre qui s'intitule « Philosophie de la décision ». Il y a des réputations qui s'installent et qui ont la vie longue. Tantôt, elles sont flatteuses sans être forcément méritées, etc. Et puis après, vous dites... Or, dans l'art de la décision, je considère que tout est affaire de circonstances et de contexte. Je me suis toujours méfié des lois générales. Et vous dites, on m'imputa l'habitude de préférer l'équilibre à l'audace, le dialogue à l'autorité, la prudence à la surprise, alors que l'air du temps, nous disait-on, exigeait intrépidité, rapidité et fermeté. Comme si finalement, cet art de la synthèse qu'on vous a reconnu aurait pu vous empêcher de prendre vraiment des décisions.
Alors d'abord, les circonstances sont tout à fait majeures dans une décision. On ne prend pas la même décision selon le contexte, les événements, les épreuves. Et devoir au départ théoriser une décision, alors même qu'on ne connaît pas l'environnement qui va justifier le choix qui va être fait, est d'une certaine façon, à mon avis, dangereux. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai, par nécessité et peut-être par caractère, toujours chercher à ramener le plus possible les Français ou mon entourage ou mes amis politiques
ou les courants du Parti socialiste
à aller dans la même direction. Car si à un moment la décision est personnelle, elle doit emmener un collectif. Il y a rien de pire que de prendre une décision et de se retourner et de voir qu'il y a personne derrière vous. Donc il faut que, bien sûr, il y a toujours la nécessité de l'anticipation, du leadership, de l'engagement personnel, mais il faut aussi emmener le reste du pays. Et c'est quand précisément il y a un hiatus entre ce que fait celui qui a ou celle qui a la légitimité pour décider et puis les Français qui ne sont pas associés à ce processus, qu'il y a cette crise démocratique que l'on connaît.
Quand on fait de la philosophie de la décision et qu'on la distingue du choix, on s'aperçoit que dans la décision, puisque tout n'est pas rationnel, tout n'est pas implacable, tout n'est pas logique, on doit compenser, au fond, l'absence de savoir absolu par autre chose. Alors vous diriez que quand vous avez pris des grandes décisions, vous avez compensé voilà cette limite du savoir objectif par quoi ? Vous diriez, j'ai compensé par mon intuition, j'ai compensé par mon courage, j'ai compensé par le hasard, j'ai compensé par ma liberté ?
J'ai compensé par mon expérience et ma connaissance supposée de l'histoire. Ça compte l'histoire, pour précisément être capable de prendre des décisions pour l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que l'on puisse prendre une décision, même si rien ne se répète. Deuxièmement, il y a de l'audace. L'audace, c'est très important. Il y a un moment où, vous l'avez dit, la rationalité ne suffit pas. Donc il faut qu'il y ait un pari d'une certaine façon. C'est ça la décision, c'est un pari. Ça ne va pas forcément donner le résultat, mais je considère que, et c'est pas simplement une intuition ou l'air du temps, je considère que ma responsabilité politique, c'est de faire le pari de l'audace. D'une certaine façon, la politique, heureusement, elle n'est pas qu'une rationalité, elle n'est pas qu'une répétition, et c'est ce qui la distingue peut-être de la science administrative ou de la technocratie. Si on pense que tout problème a sa solution technique, alors à quoi bon des responsables politiques ? Il faut de l'audace. Et il faut à un moment être quelquefois minoritaire, même si j'ai dit qu'il fallait associer le plus grand nombre, mais il faut être minoritaire pour demain être majoritaire. Mais il faut qu'il y en ait un qui avance, qui fasse un pas de plus.
Est-ce que vous pensez que ça a du sens, l'expression d'une décision collective ?
Une délibération est collective. Une décision est personnelle.
François Hollande, vous pensez qu'avoir du pouvoir, c'est prendre du pouvoir ou c'est donner du pouvoir ?
C'est les deux. Le pouvoir, il vous a été confié pour justement exercer une responsabilité, donc prendre une décision. Mais la décision peut être aussi celle de partager le pouvoir. Il faut pas empêcher le pouvoir, il faut que le pouvoir lui-même puisse s'organiser en son sein pour qu'il y ait des contradictions et qui permettent la décision. S'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de décision. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de décision.
S'il n'y a pas d'incertitude, s'il n'y a pas de doute.
De doute, oui, bien sûr. D'option même.
Au fond, ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que le paradoxe de la décision, c'est qu'elle n'a de sens que parce qu'il y a du doute, et pourtant il faut faire comme si il n'y avait plus de doute.
Il faut prendre conscience qu'il y a toujours des risques, toujours des incertitudes, mais une fois que la décision est prise, il ne faut pas que vous montriez du doute. Mais il peut y avoir, c'est arrivé dans l'histoire politique, une décision qui revienne sur la décision précédente. Et ça, c'est le plus difficile finalement, se déjuger.
Elle est une ville sans lumière. Quand sur elle vient l'automne, on ne croise plus personne à l'autre bout. fabrique des chagrins pour chanter le bruit des vagues. Près de l'eau, dans l'ombre, on sentait le goût de l'ange sur nos lèvres. Si nos cœurs cassés, les pierres tombent, la brume nous ramène. Là-bas, n'est plus que l'ombre d'une épave où les couronnes se brisent. Mais le prince de nulle part, c'était de l'or sur ma rive. Près de l'eau, dans l'ombre, on sentait le goût de l'ange sur nos lèvres. Si nos cœurs cassés, les pierres.
C'était Loni, le goût de l'orge.
Sous le soleil de Platon.
Je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais voilà, là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive.
Charles Pépin, sur France Inter.
Ah, c'était un extrait de Podium. Alors, nous sommes toujours avec François Hollande et nous posons cette difficile question. Qu'est-ce qu'une belle décision? Je fais une petite synthèse, François Hollande, de ce que vous nous avez dit pour l'instant. Une belle décision, c'est quand on compense l'absence du savoir par de l'audace, par le fait d'y aller. Mais, vous avez ajouté, si on arrive à y aller, c'est quand même parce qu'on a une expérience, parce qu'on a une connaissance de l'histoire. Où l'on voit qu'il y a un rapport entre le pouvoir et le savoir, c'est que dans une décision, il y a du savoir, mais comme le savoir ne suffit pas, il faut trouver le courage d'y aller. Alors François Hollande, une question un peu plus générale que j'aimerais vous poser. En philosophie politique, il y a deux grands courants. On va dire le réalisme politique, incarné peut-être par Thomas Hobbes. Et dans ce cas-là, la politique, elle n'a pas pour ambition de changer les hommes. Juste de leur permettre de vivre ensemble, qu'ils arrêtent de s'entretuer, de se taper dessus, c'est déjà pas mal. Faire société. Ça, c'est le réalisme politique. Et puis, il y a l'idéalisme politique. Rousseau, par exemple, qui a pour ambition de rendre les hommes meilleurs, finalement. Vous vous situez plutôt dans quel camp? Le réalisme politique ou l'idéalisme politique?
Vous avez dit que j'aimais les synthèses, donc je suis bien sûr pour qu'on tienne compte du réel. C'est une illusion de penser qu'on peut le rendre invisible ou le surmonter si on n'a pas la force d'une conviction. Et c'est là qu'intervient l'idéal. L'idéal, il est au service d'un changement du réel. Il n'est pas une coupure par rapport au réel. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la politique ne peut pas être qu'une incantation, mais elle ne peut pas être qu'une gestion. Et c'est cette synthèse qui m'a fait ce que je suis.
Donc vous assumez cet art de la synthèse. Ouais. On dirait que vous êtes un réaliste idéaliste.
Ou un idéaliste réaliste, comme on voudra. Mais je pense que cette coupure est extrêmement dangereuse, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait finalement un camp politique qui serait, lui, apte à gouverner, prêt à prendre des décisions pour le bien commun, et puis un autre camp politique, sans d'ailleurs savoir exactement quelle serait son orientation, car elle peut être la meilleure comme la pire, qui serait simplement de forger un être humain que tel qu'on l'imagine. Ça a donné lieu à quelquefois du totalitarisme ou à des mouvements révolutionnaires, parce qu'il faut aussi qu'il y ait à un moment le surgissement d'un idéal qui a été trop longtemps étouffé.
C'est quoi pour vous le peuple? Est-ce que c'est une somme d'individus ou est-ce que c'est plus que ça?
Bon, le peuple n'est pas une somme d'individus. Le peuple s'inscrit dans la nation, et c'est-à-dire qu'il est une entité collective. Le peuple a une pensée qui lui est commune, mais qui lui permet d'avoir un destin. Et donc c'est pour ça que le peuple ne peut pas être non plus idéalisé. Le peuple est ce que finalement la délibération démocratique va décider qu'il sera. La démocratie, je le rappelle, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
On va écouter un extrait qui devrait vous faire sourire.
Les familles très haut placées oublient souvent une vérité toute simple. J'ai pu le remarquer.
Et quelle est cette vérité ?
Le savoir, c'est le pouvoir.
Arrêtez-le ! Tranchez-lui la gorge. Arrêtez ! Attendez. J'ai changé d'avis. Maintenant, relâchez-le. Reculez de 3 pas. Retournez-vous. Fermez les yeux. Le pouvoir, c'est le pouvoir.
Alors François Hollande, c'était un extrait de Game of Thrones. Vous m'avez dit pendant que l'écoutait, c'est un peu daté, donc désolé. Mais pour vous, le savoir, c'est le pouvoir, ou le pouvoir, c'est le pouvoir ?
Non, le savoir ne justifie pas le pouvoir. Sinon, ça voudrait dire que ceux qui ne savent pas ou ne savent pas suffisamment sont écartés du pouvoir. Et le pouvoir ne peut pas tuer le savoir. Parce que, à ce moment-là, il devient justement un totalitarisme, une dictature. Donc, toujours, vaut mieux savoir, mais on peut aussi exercer le pouvoir en préparant le savoir de demain. C'est comme ça aussi l'idée que je me fais de la politique.
Il y a une lettre de Platon, la seule qui serait vraiment de sa main, la lettre 7, dans laquelle Platon se justifie de la proposition qui lui a été faite, parce que Platon est dans une famille d'aristocrates, et il avait la possibilité de toucher un peu au pouvoir à l'occasion du gouvernement des 30 ou des 40 tyrans, j'ai oublié le chiffre. Et puis il se justifie, il dit, vous savez, en fait, quand on a goûté au savoir, on est bien, quoi. On n'a pas besoin du pouvoir.
Oui, on a l'ivresse du savoir. On parle d'ivresse du pouvoir, mais il y a l'ivresse du savoir. C'est-à-dire être conscient que l'on connaîtrait les réponses, mais ne pas être désireux de les mettre en œuvre.
Chacun son job.
Comme pour se laver de tout soupçon. Et pour à chaque fois donner la leçon. Mais d'une certaine façon, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de savoir pour dire ce qu'ils pensent de ceux qui exercent le pouvoir. Le pouvoir, pour le pouvoir, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire, c'est le refus de mettre ce que l'on a décidé en rapport avec ce que la réalité va fournir comme preuve. Et dans l'extrait que vous donnez, à un moment, le pouvoir pour le pouvoir finit par assassiner le savoir. Il refuse qu'il y ait l'évaluation. Or, c'est le principe même de la démocratie, c'est d'être capable d'accepter l'évaluation, y compris de ceux qui ne savent pas.
Exactement. François Hollande, vous avez été sur la plus haute marge du pouvoir. Et puis, vous semblez néanmoins, malgré tout, maintenant, continuer à apprécier l'exercice d'une influence, compter dans votre époque. D'ailleurs, vous avez écrit dans un livre plus récent, voilà, être utile en tant qu'ancien président, ça veut dire ça veut dire pouvoir donner son avis. Je trouve ça un peu troublant. Vous n'avez pas la tentation de vous dire, voilà, j'ai été sur la plus haute marche, maintenant je lâche l'affaire complètement, je contemple, je lis les poètes, je me promène. Ma question, c'est, quand on a goûté à ce pouvoir jusqu'à ce point, pourquoi aimer encore un moindre pouvoir, finalement ?
Quand on a eu l'expérience qui est la mienne, on a ce devoir-là qui est de la transmettre. J'ai reçu le pouvoir du peuple français. Je lui suis redevable, d'une certaine façon. Donc j'ai cette obligation, et je le fais notamment auprès des jeunes dans les lycées ou dans les universités, d'aller leur dire ce qu'est le pouvoir. De la même manière que vous m'interrogez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement le pouvoir ? Est-ce que finalement un président peut faire tout, décider de tout, être capable de modifier le sort commun ? Eh bien non, j'explique, et qui peut le faire mieux qu'un ancien président pour convaincre les Français, et les plus jeunes notamment, que le pouvoir n'est pas absolu, qu'il y a des règles, qu'il y a des institutions, que l'on doit s'engager, qu'il n'y a pas de politique sans citoyens. Enfin bref, faire ce que je crois être ma conviction, mais surtout ce que j'ai retenu de ce long parcours, qui n'était pas simplement celui de la présidence de la République. J'ai été maire, président de conseil départemental, député. J'ai ce devoir de transmettre. Et moi-même, je pense que je dois redonner, parce que ça se perd, le goût de la politique à beaucoup de jeunes qui n'y croient plus ou qui ne votent plus. C'est là aussi, d'une certaine façon, quand on a été président, on ne termine pas simplement sa vie politique en quittant l'Élysée.
Il n'y a pas de retraite non. pour un homme politique.
Je dirais pour un homme ou une femme qui s'est engagé à ce point et qui se dit maintenant après, je vais aller cultiver mon jardin, ça peut ouais. arriver, ou faire des affaires, ça peut arriver ouais. aussi, ou tout simplement me mettre en retrait de tout.
Barack Obama, par exemple, Barack Obama oui. semble s'être retiré.
Voilà, se mettre dans une fondation, mais il s'occupe aussi des jeunes qui veulent s'engager et il lutte contre les discriminations. Voilà, moi je n'ai pas du tout cette vocation de me dire finalement ça a été un moment de ma vie. Ouais. Merci les Français et maintenant je vais faire autre chose. Non, je suis toujours au service des Français.
Je voudrais, François Hollande, qu'on aborde une autre question qui est liée à la question de la décision, puisque dans les décisions que vous avez prises, on a pris l'exemple du Bataclan, il s'agissait au fond de sauver des vies, en tout cas de faire qu'il y ait moins de morts. Je voudrais qu'on aborde cette question de la mort. Quand on est président de la République, même prétendument normal, on a un rapport anormal oui. à la mort. On a une expérience de la mort extrêmement particulière. On doit appeler les familles des victimes, on doit appeler les parents d'un soldat qui est mort, et au fond, ça arrive souvent. Alors comment on fait pour vivre ça au quotidien, et notamment après avoir vécu ce genre de scène, pour revenir aux affaires courantes?
La mort ne m'a pas quitté dès lors que je suis devenu président et que j'ai eu à affronter des épreuves, la mort a été toujours présente. Je pense que ça a été vrai d'ailleurs pour mes prédécesseurs et ça l'est encore pour mon successeur. Cette mort, on la rencontre dans des catastrophes, lorsqu'il faut annoncer aux familles ou qu'il faut simplement écouter les familles, dans les attentats terroristes, dans les soldats qui sont tombés au Mali ou ailleurs. Et c'est l'épreuve la plus difficile de parler aux familles. Je me souviens aussi de ce que j'ai fait après les attentats contre Charlie, l'hypercacher, parler aux familles, apaiser leur douleur, écouter même leur récrimination, leurs reproches, leur colère. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est l'extrême dignité des personnes qui sont ainsi touchées. On l'a vu d'ailleurs pendant le procès du 13 novembre. L'extrême dignité de tous ceux qui ont été dans leur chair frappés ou qui ont eu des proches qui sont tombés et qui ne crient pas vengeance. Et c'est de ce point de vue-là une leçon d'humanité. Je peux là aussi transmettre mon expérience. Je pense que nous sommes un peuple où il y a plus de fraternité qu'on le dit et plus d'humanité qu'on le croit.
Et ma question, c'était aussi sur le retour aux affaires courantes. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où concrètement c'est trop, au fond? C'est trop de reprendre un dossier comme celui, je sais pas, des retraites ou d'un dossier technique quand on vient de raccrocher avec la mère d'un garçon de 20 ans qui est mort au Mali?
Oui, le passage à la gestion des choses, alors que nous venons d'être dans le rapport le plus intime avec une personne qu'on ne connaît pas et qui va nous confier son malheur. Mais c'est ça, d'une certaine façon, l'art de décider, c'est d'être capable de passer d'un sujet à un autre.
Même celui-là, exactement.
Même celui-là, oui.
Quand vous avez quitté le pouvoir, la semaine même, vous avez perdu votre frère aîné. Vous avez appris que son état s'aggravait, je crois, le jour où vous avez quitté le pouvoir. Et quelques jours après, vous l'avez perdu. Comme pour rappeler que finalement, on n'en a jamais fini avec la mort. Ça vous a... quelle influence, quel effet ça a eu sur votre rapport au pouvoir que vous veniez de quitter, de perdre votre frère juste après?
D'abord, j'ai pensé à ce qu'il avait lui-même voulu signifier. Il était atteint d'un cancer depuis déjà plusieurs années, il luttait. Et il est mort 2 jours après que je sois sorti de l'Élysée. Comme s'il avait voulu aller avec moi jusqu'au bout. Et ensuite quitter la scène. Donc comme si l'intime rejoignait le politique. Comme si son soutien était d'être en vie jusqu'à ce que moi-même j'en ai terminé, si je puis dire, de la vie politique, au moins de la vie élyséenne. Voilà, donc c'est là que, de toute façon, il faut toujours le comprendre, la vie personnelle compte énormément dans la vie politique.
Vous moquez de moi parce que j'avais pris l'exemple d'une série datée. Dans une série un peu moins datée, The Crown, ouais. On voit une reine. Et ce qui est passionnant, c'est que cette reine, elle a aussi des problèmes intimes. Ça me fait penser à cette très belle phrase de Montaigne, qui est pour moi une des phrases philosophiques les plus puissantes. On a beau être assis sur le plus beau trône du monde, on n'en reste pas moins assis sur son cul.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
C'était John Lennon, Working Class Hero.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec François Hollande et nous questionnons l'énigme de la décision. Je trouve qu'on est allé assez loin déjà pour toucher ce cœur vibrant d'une décision qui n'est pas un simple choix, c'est ça qui est beau. Alors François Hollande, je vous sentais un peu ému en écoutant John Lennon, cette chanson-là, Working Class Hero.
Oui, parce que on a besoin de héros, on a besoin de convictions, on a besoin de rêves possibles, et on a besoin d'avoir à un moment quelque chose qui va en vous vous donner une force supplémentaire. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de convictions, d'être simplement mu par ou l'ambition ou une forme de pragmatisme ou de mélange de tout. Donc c'est la conviction qui va donner de l'esprit à la décision. La décision, elle doit être spirituelle aussi. Elle doit indiquer, oui, elle doit indiquer une conception, une idée de l'avenir, ou en tout cas une force de mobilisation des citoyens.
Ou une vision.
Vision, tout simplement. S'il n'y a pas de vision, la décision n'est qu'un moment qui se répétera peut-être sans qu'elle marque un changement. Je vous l'ai dit, la décision, c'est ce qui va s'inscrire dans la durée. Donc il faut que ça soit dans une direction.
Donc une bonne décision, dans ce cas, c'est celle qui produit des bons effets sur la durée.
Oui, bien sûr. Et c'est celle qui ne sera peut-être jamais remise en cause. C'est celle qu'on... C'est ce qu'on s'appellera la trace. La bonne décision, c'est la trace.
Vous pensez à laquelle de vos décisions ?
Oh, je pense à une, mais qui n'était pas en soi une décision, c'était un engagement. Quand j'ai voulu qu'il y ait le mariage pour tous, c'était controversé. Il y a eu des manifestations. Beaucoup pensaient qu'il mettrait en cause cette réforme. Elle ne l'a jamais été. Donc après, il y a une décision qui est peut-être la plus contestable dans son principe, même si elle peut être humainement nécessaire. C'est la grâce présidentielle. C'est vraiment la décision la plus monarchique qui soit. Remettre en cause une décision de justice par sa propre volonté. Je l'ai fait parce que il y avait une conviction, il y avait un symbole. C'était vous vous rappelez de ce cas de cette femme qui avait tué son mari et qui était condamnée deux fois par une cour d'assises. Donc j'ai voulu qu'il y ait là non pas le pouvoir du prince, mais qu'il y ait au contraire une cause qui soit défendue.
Mais vous le disiez, on a besoin de héros. Dans la chanson, on a besoin de working class hero. C'est pas exactement la même chose. À chaque fois que la gauche a pris le pouvoir, avec vous et avec François Mitterrand, elle a réussi à faire une synthèse, une union de la gauche, c'est-à-dire la gauche radicale et la gauche réformiste qui arrivent à s'entendre. Certaines personnes de gauche, de la gauche radicale, et notamment certaines personnes parmi les auditeurs de France Inter, on les imagine maintenant, vous reprochent d'avoir, ce sont leurs mots, trahi une certaine gauche. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ?
Le pouvoir, quand c'est la gauche qui l'exerce, est toujours vécu sur le mode de la trahison. Est-ce qu'on est allé aussi loin que la promesse qui avait été faite laisser penser aux citoyens, en tout cas ceux qui vous avaient fait confiance, qu'il serait possible d'aller au-delà même des changements espérés. Donc la gauche, elle a toujours été confrontée dans son histoire, dès qu'elle est arrivée au pouvoir, du cartel des gauches, Front Populaire, François Mitterrand, Lionel Jospin, moi-même, à ce reproche de la trahison. Et la meilleure façon de ne pas trahir, c'est de ne pas décider, c'est de ne pas exercer le pouvoir, de ne pas s'affronter à la réalité. Et c'est là qu'il y a ce débat entre gauche radicale et gauche réformiste. Je comprends à chaque fois les démarches, mais si la gauche réformiste n'est pas capable d'être plus forte que la gauche radicale pour emmener au moins ses électeurs, à défaut de ses dirigeants, pour l'emmener au pouvoir et nous confronter ensemble à cet exercice-là, eh bien, la droite est promise à gouverner pour l'éternité. Donc voilà, c'est pour ça que quand la gauche radicale, et ça a été longtemps vrai avec le Parti communiste qui était beaucoup plus fort dans l'histoire de la gauche que le Parti socialiste, quand il y avait cette attraction vers le Parti communiste, eh bien, il n'y avait pas de gauche au pouvoir.
Les remords. Combien de temps encore? Oh.
Alors c'était la voix profonde et un peu dark justement de Daniel Darc. On a bien compris, François Lade, votre position, vous assumez vos décisions, vous assumez le fait que pour prendre le pouvoir, il faut d'une certaine manière trahir, ou en tout cas donner cette impression à certains de ceux qui sont dans cette union. Mais vous n'avez quand même pas de remords au sens propre, même pas un.
Si, si, il y a des regrets en tout cas, j'ai souvent évoqué, lorsqu'il y a eu les attentats, j'avais pensé pour réunir les Français, pour éviter qu'il y ait de la surenchère, pour que nous soyons tous un moment unanimes, d'aller prendre quelques propositions qui n'étaient pas forcément celles de mon camp politique.
Comme la déchéance
de la nationalité.
Ça, vous le regrettez?
Quand je l'ai présenté, tout le monde trouvait que c'était effectivement une évidence. Après, il y a eu plein de questions sur pourquoi faire la distinction entre... C'était des criminels terroristes, entre ceux qui avaient une double nationalité et les autres. Et là, c'est vraiment le propre d'une décision, bonne ou mauvaise, qui est mal comprise. Vous pouvez assumer une décision, mais quand ceux qui vous sont les plus proches ne la comprennent pas eux-mêmes, votre décision n'a plus de raison d'être.
De toute façon, tout l'enjeu d'une décision, c'est de la post-rationaliser, alors qu'au fond, dans son essence, elle n'est pas rationnelle.
Oui, elle n'était pas, au sens rationnel du terme, elle n'était pas. C'est pas parce que vous allez avoir la déchéance de nationalité que des terroristes ne vont pas vous attaquer. Ils ne se posent pas la question
c'était
de savoir
symbolique.
S'ils vont perdre leur nationalité. C'était symbolique, c'était de dire qu'est-ce que c'est que d'être français, c'est pas de porter les armes contre d'autres Français ou contre des citoyens qui vivent ici. Donc, dès lors que vous n'arrivez pas à expliquer. Y compris avec des arguments rationnels, surtout avec des arguments rationnels, quand la passion s'empare ou quand l'émotion s'installe, votre décision doit être arrêtée. Ce que je disais tout à l'heure, le plus dur dans une décision, c'est de revenir sur la décision précédente.
Mais de toute façon, tout le monde a ce problème, on n'est pas obligé d'être président de la République, hein. Tout le monde a ce problème qui fait qu'à un moment, on choisit mais on décide, au fond parce que voilà, on a eu le courage, on a tranché, on s'est engagé, ou parfois on a eu une intuition aussi, et puis en fait, l'étape d'après est compliquée. Il faut expliquer ce qui au fond ne relève pas vraiment de l'explicable. François Hollande, dans votre livre « Les leçons du pouvoir », vous tirez le bilan de 5 ans d'exercice. Vous sortez d'ailleurs en septembre un prochain livre qui s'appelle comment déjà ?
Bouleversement.
Bouleversement, plutôt sur la géopolitique, toujours chez Stock. Mais je voudrais savoir, question très très générale, mais avec ce recul, finalement, que vous a appris de la vie l'exercice du pouvoir qu'au fond vous ignoriez auparavant ?
La dureté, on n'imagine pas à quel point l'exercice du pouvoir induit une violence, parfois une haine, je ne l'ai pas forcément connue, mais en tout cas une forme d'incompréhension, de rejet. Et c'est toute la différence entre être candidat et être président. Quand vous êtes candidat, vous êtes aimé au moins par une partie de la population, en tout cas majoritaire si vous devenez président. Dès que vous êtes président, c'est-à-dire dès que vous occupez une responsabilité éminente, ceux qui vous aiment ne vous le déclarent plus avec la même intensité. Ceux qui ne vous aiment pas, alors eux s'expriment encore plus véhémentement. Donc, faut accepter. C'était pour moi très très difficile de ne pas être aimé, toujours aimé. Or, le propre de la vie politique, enfin en tout cas telle que je la concevais, de faire le bonheur d'une société, d'essayer d'apporter du mieux, de l'espoir. C'est très dur de ne plus être aimé. Et il ne faut pas non plus chercher à être aimé à tout prix, parce qu'à ce moment-là, vous n'exercez plus la décision. La décision, forcément, va faire qu'à un moment, lorsque vous aurez pris la décision, des gens ne vous aimeront plus.
En fait, toute décision porte en elle, d'une part, le risque de l'échec, d'autre part, le risque de l'impopularité.
Oui, le risque de l'incompréhension, du rejet, de la contestation. Vous prenez une décision, certains pensent qu'il aurait fallu en prendre une autre. Et c'est pour ça qu'il faut assumer, c'est ça le sens de l'exercice du pouvoir, même si dans une démocratie ça doit être partagé, il faut assumer qu'à un moment, le courage ou l'audace dont vous avez fait preuve ne va pas être payé de retour. Et peut-être que c'est au cours des années qui suivront qu'il y aura une réévaluation, on peut toujours l'espérer, une réévaluation, une réhabilitation, un retour en disant finalement, il avait raison.
François Hollande, je vais vous proposer un exercice que proposent les psychologues comportementalistes. Sur une échelle de 0 à 10, on va mesurer la solitude de la décision du chef d'État. Je parle des grandes décisions que vous avez évoquées. 0, c'est le fait qu'on est bien entouré, on se sent enveloppé au cœur de la décision. Et 10, on est dans la solitude maximale. Alors, sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous mettriez le degré de la solitude du président dans les grandes décisions ?
Sur les décisions d'engagement des forces, là, c'est le président et le président seul.
C'est 10.
C'est 10.
Donc, c'est une solitude radicale.
Oui. Et qui est aussi fonction des institutions. Les institutions vous donnent la possibilité, comme président de la République, par exemple, d'engager la force nucléaire, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Mais c'est là que la solitude est la plus grande quand il s'agit de défendre l'intégrité du territoire.
François Hollande, le contraire de l'esprit de décision, c'est cette citation d'Henri Queuil, un de vos prédécesseurs, Une phrase assez géniale. Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout, qu'on pourrait traduire autrement. Il n'est pas de problème qu'une absence de décision ne finisse par régler.
Alors, Henri Queuil était un homme, en fait, très courageux, qui avait été dans la résistance et qui a été victime de cette phrase-là. C'était l'idée que finalement, à quoi bon décider puisque c'est la situation qui va faire le choix à votre place. Il suffit d'attendre pour que finalement les problèmes se résolvent par eux-mêmes. Et ben ça ne fonctionne pas. Ça a été vrai, je pense, ça l'est de moins en moins.
Vous voulez dire sous quelle période ?
Ça a été vrai quand la période était avec une croissance très forte, lorsqu'il n'y avait pas de crise climatique, lorsqu'il y avait un pays qui pouvait être éruptif, mais d'une certaine façon, qui, dans une quatrième république, qui était celle d'Henri Queuil, ne faisait sauter les gouvernements assez fréquemment. C'est de moins en moins vrai. Mais c'est une tentation de se dire...
D'attendre, en tout cas.
Jacques Chirac, qui était là aussi, qui connaissait bien le personnage d'Henri Queuil, quelquefois était tenté d'utiliser cette formule. Et généralement, elle est assez douloureuse parce que il y a rien de pire que de laisser penser qu'on ne prend plus de décision. Mais je vais peut-être faire une distinction entre l'hésitant et l'indécis.
Oui.
L'hésitant est celui qui fait finalement un débat entre lui et lui. Quelle est
une délibération intérieure
entre le moi et le je.
C'est la conscience, c'est beau.
C'est la conscience. Donc, l'hésitant va, à un moment, sortir de son hésitation et aller dans une direction. L'indécis est celui, et Henri Queuil aurait pu donner cette image, qui ne décide jamais de rien. et qui fait de cette indécision un art politique.
Merci François Hollande d'avoir rendu justice à Henri Queuil. Ça me fait penser à cette phrase de Descartes, hein, l'irrésolution est le pire des maux et pour en sortir, il faut trouver le courage de trancher, de décider. François Hollande, pour vous remercier d'avoir accepté cette étrange, un peu décalée invitation, je voudrais dresser pour nos auditeurs la philosophie de la vie, philosophie politique bien sûr, qu'on a entendu dans votre bouche ce matin. Alors oui, une philosophie de la synthèse, mais pas au sens où on vous a reproché que cette synthèse soit un obstacle ou une entrave à la force de décider. Au contraire, une philosophie de la synthèse comme préalable, d'une délibération comme préalable au fait de trouver l'audace de trancher. Et puis aussi, bien sûr, on vous a entendu, ni réalisme, ni cynisme, fortiori, ni idéalisme non plus, mais un réaliste idéaliste, ou peut-être même, pourrait-on dire, un idéalisme réaliste. Merci beaucoup, François Hollande. Je précise que votre prochain livre, Bouleversement, sort en septembre aux éditions Stock. Merci beaucoup.
Et merci de m'avoir attiré dans votre caverne et je me sens platonisé aujourd'hui.
Voilà, j'espère que vous êtes bien senti dans cette caverne de Platon. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, à la technique Henri Bérec, à la programmation musicale. Et merci beaucoup pour ce Working Class Hero, Valentine Chaudebois. Elle a été très bien préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h exactement, sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter.